C'est une expérimentation ce soir pour je récapitulais un peu la j'ai fait une classe sur le système américain, mais plutôt la à l'époque de Hamilton et Jefferson. Je vais un peu récapituler pour nous mettre dans le contexte de ce qui s'est passé après avec Lincoln. Je sais pas encore si on va aller beaucoup dans Lincoln pour l'instant, mais je prépare une autre classe qui va être donnée à notre cadre school, à la conférence qui s'en vient dans 2 semaines, qui va être un peu plus en détail sur vraiment ce que Lincoln a fait, avec les répercussions que ça a eu après l'administration de Lincoln. Est-ce que tout le monde s'en rappelle la classe un peu, ou il y en a qui étaient là?
Celle de Denis Détroit aussi.
Ça. Ouais, c'est ça. Sur la question Hamilton, qui est vraiment le père fondateur?
Oui.
Mais on dit qu'il y en a plusieurs, mais la politique de quel. Lequel a le plus influencé? D'où vient vraiment le système américain? Puis tout ce débat-là. Que les académiciens ont, à savoir, Hamilton, Jefferson, il y avait une bataille entre les deux. Mais c'était pas vraiment ça le vrai. En vérité, le cas était totalement différent. Et Abraham Lincoln, lui, avait compris ça. En fait, la population, d'une certaine manière, avait compris ça. Le problème, c'est qu'il y a toujours eu une attaque contre l'idée de la République, même à partir des États-Unis. Il y a toujours eu, même après l'indépendance des 13 colonies américaines, il y a toujours un ferment qui était en fait prêt à détruire les États-Unis et à les ramener sous la tutelle de l'Empire britannique. C'est là où on voit Wall Street, qui n'a jamais été un fondement d'aucune richesse aux États-Unis. Ça a toujours été Wall Street. Mais ça a toujours été, dans le fond, l'appendice de l'oligarchie financière de Londres. Et ça, Lincoln l'avait compris. Donc, c'est pour ça qu'on va aller revoir ce qui se passait à l'époque. Les États-Unis en 1860, on va y revenir. Mais c'est la situation... sur les géographiques dans lesquels Lincoln devait ça, c'est avec ça qu'il devait dealer quand on dit
c'est
là-dedans qu'il évolue, c'est ça. Mais on va y revenir. Je vais pas faire trop de stratégie militaire ce soir. C'est pas ça mon but pour l'instant. Ça pourrait être intéressant plus tard, mais c'est pas là-dessus que je vais me concentrer, vu que les gens, des fois, quand on parle de la guerre civile, veulent savoir c'était quoi le plan qui avait gagné plus vite, ou en tout cas. Ça va pas être ça mon but pour ce soir, malgré que ça, c'était un des plans. Le général Winfield Scott, je sais pas si ça sonne une cloche, mais en tout cas, un des généraux qui avait été là, vraiment un doyen, en fait. Je pense qu'il était là à l'époque, après la Révolution. En tout cas, il était tout jeune, mais il était là autour de Jackson, Andrew Jackson aussi. Mais en tout cas, il y avait un plan de comment se débarrasser des confédérés. Comment vraiment ramener les États-Unis ensemble. Donc, la situation... Ah oui, on va passer ça. Mais ce qui était compris à l'époque, aux États-Unis, il y avait... Ce qui était compris, c'est qu'il y avait deux systèmes. Maintenant, aujourd'hui, on n'apprend plus ça. Aujourd'hui, on apprend seulement qu'il y a le libre-échange puis ceux qui sont contre. Mais il y avait vraiment deux systèmes économiques qui existaient de par le monde. C'est-à-dire, un étant le système britannique, et l'autre étant le système américain. J'ai une citation que je voudrais à Ahmed, je voudrais que tu la lises ici, qui vient d'un livre de Henry Carey qui s'appelle The Harmony of Interest. Attends, reste près du micro. Okay. En 1850, 51,
je pense. 51, ouais,
cette citation-là.
Okay. Donc, citation de Henry C. Carey, leading American system economist, defined the difference between the American system and the British system in his 1851 book, The Harmony of Interests. So, I quote, "Two systems are before the world. The one looks to increasing the proportion of persons and of capital engaged in trade and transportation, and therefore to diminishing the proportion engaged in producing commodities, would necessarily diminish return to the labor of all, while the other looks to increasing the proportion engaged in the work of production and diminishing that engaged in trade and transportation, with increased return to all, giving to the laborer good wages and to the owner of capital good profits. One looks to increasing the quantity of raw materials to be exported and diminishing the inducements to the import of men, thus impoverishing both farmer and planter by throwing on them the burden of freight, while the other looks to increasing the import of men and diminishing the export of raw materials. One looks to exporting men to occupy desert tracts, which are obtained by aid of diplomacy or war, the other to increasing the value of an immense extent of vacant land by importing men by millions for the occupation. One looks to underworking the Hindu and sinking the rest of the world to his level. The other to raising the standards of man throughout the world to our level. One looks to pauperism, ignorance, depopulation, and barbarism. The other to increasing wealth, comfort, intelligence, and civilization. One looks towards universal war, the other towards universal peace. One is the English system, the other way we may be proud to call the American system, for it is the only one ever devised with the tendency of which was that of elevating while equalizing the conditions of man throughout the world."
Donc ça doit sembler un peu paradoxal aujourd'hui que le système américain semble si beau, mais en fait c'était vraiment ça l'intention derrière les politiques de la faction patriotique, la vraie faction américaine qui s'est battue pour avoir l'indépendance. Mais la faction britannique était toujours là, même aux États-Unis, pour essayer de ramener les politiques impériales britanniques, pour essayer de faire en sorte que la tentative, première tentative d'avoir une république démocratique, une république, un pays souverain, soit un échec. Et que ça sorte de la tête des gens qui disent « Ah, ben, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça. » On va retourner sous l'Empire. Le ciel était plus bleu. Mais Henry Carey, lui, c'était le conseiller en chef économique, c'est l'économiste en chef de Abraham Lincoln. Et donc, lui comprenait bien et avait écrit énormément de tracts pour expliquer c'était quoi la différence fondamentale entre le système américain et le système britannique. Ils appelaient ça le système américain, vraiment. Ça avait été depuis Henry Clay, qui lui était un autre chef d'État américain, pas président, mais au Congrès, si je ne me trompe pas, ou au Sénat. Voyons, comme ça. En tout cas, mais qui avait été en politique américaine pendant de longues années, qui avait donné ce nom-là au système, en fait, d'Alexander Hamilton, du système américain. Maintenant, laissez-moi juste voir qu'est-ce qui s'en vient. Ah oui. OK. lire cette citation-ci. Donc, ça, c'est dans le premier message que Lincoln a fait au Congrès américain. Et j'ai mis le titre, j'espère que vous l'aimez. Mais je me suis posé la question, puis j'essayais de définir, redéfinir, revoir qu'est-ce qu'était le capitalisme dans les derniers mois. J'ai même pensé à un moment donné faire une manifestation pro-capitaliste à Montréal. Mais je me suis dit que non, parce qu'il fallait que j'en sache un peu plus. Mais j'en suis arrivé à un point où j'ai découvert que en fait, le système américain, ou même l'idée de capital, c'est pas ça l'important dans l'idée d'économie. Puis que c'est ça, le système américain n'était pas capitaliste. Donc je vais lire cette citation-là.
C'est Lincoln qui a dit ça?
Ça, c'est Lincoln, ouais. Son premier message au Congrès, le 3 décembre 1861. Il dit, ça c'est juste une petite partie, là. Mais il dit, « Labor is prior to and independent of capital. Capital is only the fruit of labor and could never have existed if labor had not first existed. Labor is the superior of capital and deserves much the higher consideration. Capital has its rights, which are as worthy of protection as any other rights. » Et puis là, il va en développant un peu plus ce qu'il veut dire par « labor ». Et un autre article aussi, un des discours de campagne de Lincoln, quand il faisait la campagne pour la présidence, en 1858, où il fait aussi, il fait une éloge justement du travail humain à l'idée que l'être humain est créateur. Et c'est vraiment ça, en fait, qui distingue l'être humain de l'animal, qui fait en sorte que le système économique, politique, la société en général, doit être orientée à développer le potentiel créatif de l'être humain. Et dit, dans le fond, c'est comme une mine. C'est que il faut aller creuser. Sinon, il n'y a rien qui va se passer. Et donc, il faut développer l'être humain à être capable de faire des découvertes, parce que les castors font leur barrage comme ils les faisaient il y a 1000 ans. Les fourmis font leur îlot comme ils les faisaient il y a 1000 ans. Mais les êtres humains, maintenant, vivent dans... On a aujourd'hui l'air climatisé. C'est quand même bien. Mais plus que ça, on a la capacité de maintenir une population. On a la capacité de la maintenir, la population actuelle, si on s'en donne les outils. Et là, ça revient à qu'est-ce que Mathieu disait tout à l'heure, toute la politique de désindustrialisation. Ça, c'est comme si on revenait justement avant la Révolution américaine. Le processus qui a eu cours pendant 40 ans, c'est un processus pour nous ramener à un état de colonie. Et c'est certain que Lincoln n'aurait pas été d'accord du tout. Parce que lui voyait que c'était l'être humain derrière le travail, derrière, et que le capital, ça c'était vraiment mais secondaire, tertiaire, c'est pas la priorité. C'était vraiment faire en sorte que les gens soient capables de développer tous les outils possibles pour améliorer le sort de la société en général. Maintenant, Lincoln, il tient ça d'un document qui a été écrit en 1776. Ça s'appelle la Déclaration d'indépendance. Mathieu, est-ce que tu peux venir le lire? Ça, c'est pas la Déclaration d'indépendance en tant que telle. On va avoir...
C'est quoi ça?
Ça, c'est un discours que Lincoln a fait en 1858, pendant la campagne, justement, électorale. À Lewiston, Illinois... pendant qu'il y avait les débats avec, comment il s'appelait, Stephen Douglas. Il faisait les débats sur, OK, l'esclavagisme. C'est quoi le point de vue de Lincoln et de Douglas? Il y avait émis un défi. Il dit, est-ce que Douglas, est-ce que tu es prêt à me débattre là-dessus? Donc, on va commenter le... Ouais, juste à partir... Ouais, c'est ça, ici. Okay.
The Declaration of Independence was formed by the representatives of American liberty from 13 states of the Confederacy, 12 of which were slaveholding communities. We need not discuss the way or the reason of their becoming slaveholding communities. It is sufficient for our purposes that all of them greatly deplored the evil and that they placed a provision in the Constitution which they supposed would gradually remove the disease by cutting off its source. This was the abolishment of the slave trade. So general was conviction, the public determination, to abolish the African slave trade, that the provision which I have referred to as being placed in the Constitution declared that it should not be abolished prior to the year 1808. A constitutional provision was necessary to prevent the people, through Congress, from putting a stop to the traffic immediately at the close of the war. Now, if slavery had been a good thing, would the fathers of the Republic have taken a step calculated to diminish its beneficent influences among ourselves and snatch the boon wholly from their posterity? These communities, by their representatives in the old Independence Hall, said to the whole world of men, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among those are life, liberty, and the pursuit of happiness. This was their majestic interpretation of the economy of the universe. This was their lofty and wise and noble understanding of the justice of the Creator to his creatures. Yes, gentlemen, to all his creatures, to the whole great family of man.
Mm-hmm.
In their enlightened belief, nothing stamped with the divine image and likeness was sent into the world to be trodden on and degraded and imbruted by its fellows. They grasped not only the whole race of men then living, but they reached forward and seized upon the farthest posterity. They erected a beacon to guide their children and their children's children and the countless myriads who should inhabit the earth in other ages. Wise statesmen as they were, they knew the tendency of posterity to breed tyrants. And so they established these great self-evident truths, that when in the distant future some man, some faction, some interest, should set up the doctrine that none but rich men or none but white men were entitled to life, liberty, and the pursuit of happiness, their posterity might look up again to the Declaration of Independence and take courage to renew the battle which their fathers began. So that truth and justice and mercy and all the humane and Christian virtues might not be extinguished from the land, so that no man would hereafter dare limit and circumscribe the great principles on which the Temple of Liberty was being built. Now, my countrymen, you have been taught doctrines conflicting with this with the great landmarks of the Declaration of Independence. You have listened to suggestions which would take away from its grandeur and mutilate the fair symmetry of its proportions. If you have been inclined to believe that all men are not created equal in those inalienable rights enumerated by our chart of liberty, let me entreat you to come back. Return to the fountain whose waters spring close by the blood of the revolution. Think nothing of me. Take no thought of the political fate of any man whatsoever. but come back to the truths that are in the Declaration of Independence. You may do anything with me as you choose, if you will but heed these sacred principles. You may not only defeat me for the Senate, but you may take me and put me to death. While pretending no indifference to earthly honors, I do claim to be actuated in this contest by something higher than an anxiety for office. I charge you to drop every paltry and insignificant thought for any man's success. It is nothing. I am nothing. Judge Douglas is nothing. But do not destroy that immortal emblem of humanity, the Declaration of American Independence. Can I have that?
After.
Okay.
I'll make you a copy.
Yes.
Okay. Donc, ça peut expliquer pourquoi Lincoln a été justement élu comme président des États-Unis. Ça peut aussi expliquer pourquoi les Britanniques avaient vraiment peur de Lincoln. Parce que c'était pas une question genre, juste de politique, mais c'est une question de principe. Et Lincoln, je pense, dans ce discours-là, mais dans plusieurs autres, énonce clairement les principes sur lesquels lui va se battre. Et puis on entend, je sais pas qu'est-ce que au préalable, qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous avez dit « Ah, je vais aller écouter une classe sur Lincoln, ça va être plaisant, ça va être le fun. On va voir s'il dit la même chose que j'ai lu. » Ou, en tout cas, peu importe ce que vous avez vu à l'école. Mais des fois, en tout cas, il y en a qui avancent cette idée-là que Lincoln, en fait, n'était pas vraiment contre l'esclavagisme. En fait, lui, était plus pragmatique. Il voulait que tout le monde s'entende, puis pas trop avoir de problèmes, là, mais bon, il est arrivé, puis il a fallu faire la guerre. Non. Ça, c'est pas une bonne hypothèse. On peut déjà scraper ça. Puis justement, le problème qui manque peut-être aux personnes qui font cette hypothèse-là, c'est qu'ils n'ont pas lu Lincoln. Oui, ils se basent sur quelqu'un d'autre qui a lu un papier de Lincoln puis il pense savoir ce que c'est en général. Il pense pouvoir généraliser ça. Une chose qui est dit non, surtout je pense à une question qui lui a été posée à Boston où il y avait justement une personne qui disait « Ben, êtes-vous contre l'esclavage ou êtes-vous pour l'union? » Qui était dans le fond une question qui était... C'est... Quand on lit ça, ou quand on connaît la déclaration d'indépendance américaine, un va pas sans l'autre. On peut pas être pour l'union et pour l'esclavage. Comme on peut pas être contre l'esclavage et contre l'union. C'est des choses qui vont ensemble. Parce que les principes sont universels. Donc, Lincoln, à ce moment-là, avait dû dire, ben regarde, moi, si je vais défendre l'Union jusqu'à la fin, si je ne suis pas obligé de libérer les esclaves, si c'est pas une nécessité, c'est pas ça que je vais faire pour sauver l'Union. Mais je vais sauver l'Union parce que Lincoln, en fait, savait que si tu ne sauves pas l'Union, ça va être l'esclavagisme partout. Et c'était ça la politique de l'Empire britannique. Ça, Lincoln comprenait. Que c'était pas juste une guerre qui était entre le Nord et le Sud. Et donc, il devait, justement, il pouvait pas organiser sa propre population en disant, ben, on va aller leur botter le derrière au Sud-Est parce que c'est des esclavagistes. On va, une fois pour toutes, on les ramener dans le droit chemin, puis that's it. Non, il pouvait pas organiser des gens à aller tuer, dans le fond, leurs compatriotes. C'était pas ça l'intention de Lincoln. Il y a des principes pour lesquels on s'est battu. Il y a des problèmes sur lesquels on a statué qu'on allait en reparler pour les résoudre. Là, on ne l'a pas fait. Il va falloir que ce soit maintenant ou jamais. Et donc, là, en temps de guerre, la population savait qu'elle allait avoir un conflit. De quelle magnitude, ça, c'était inconnu de tous. Mais ils savaient qu'il allait avoir un conflit. Et déjà, quand Lincoln arrive au pouvoir, il y a déjà des États qui ont fait sécession. Donc, il y a un problème. Alors, retournons un peu en arrière, par contre, pour l'instant, avant de revenir à Lincoln. Pour voir un peu ce qui s'était passé auparavant. Donc, on a parlé un peu d'Hamilton Jefferson. Mais il faudrait définir un peu plus qu'est-ce que c'est que le système américain avant de voir qu'est-ce que Lincoln a fait. Est-ce que quelqu'un a une idée de c'est quoi le système américain ou c'est quoi les politiques du système américain? Ouais. Nomme-moi-en.
Hein?
Protectionnisme. Ok.
Tarifs
douaniers? Ok. Ouais. Ça s'en est un.
Principe de general welfare of the country.
Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Parce que c'est la constitution, ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que si on a l'idée de general welfare puis le protectionniste, on est sept, comme on dit. Luc?
C'est une question de d'où on va puiser l'autorité.
Ouais. Tu veux-tu élaborer un peu là-dessus?
D'établir la loi naturelle comme un principe de loi.
OK.
C'est comme le general welfare un peu?
Pas exactement.
OK. Je mettrais ça peut-être comme quelque chose qui est proche de l'idée de bien-être
plus
général.
Grand, c'est plus grand.
C'est plus grand. C'est ça qui organise ce qui fait le bien-être général. Ok. Ok, toi tu mettrais ça dans la loi natural law. C'est comme ça qu'on marche. Comment ça se reflète en termes de politique? C'est, si tu veux organiser une société qui irait avec la loi naturelle, qu'est-ce que tu dois faire pour que ça arrive? Ça serait quoi ta politique économique, mettons, de general welfare? Ou de loi naturelle. C'est quoi la loi naturelle appliquée à la société humaine? C'est plus ça ma question.
Okay.
Juste pour définir un peu plus. Hein.
C'est une augmentation.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Luc?
On peut plus voir ce qu'il dit qu'il va dire.
Alors, je te taquine.
Une augmentation de la vitesse à laquelle on va adopter des nouvelles technologies.
OK, faire des inventions.
Ouais.
OK, fait que tout se dire, OK, fait que tarifs douaniers.
Le chemin de fer.
On veut faire. OK, des. Fait que des projets économiques pour le développement.
Ouais.
Du développement intérieur. Right.
Ouais.
Si on parle d'une nation, là, on parle d'une société, on parle d'une nation souveraine.
Progrès technologique.
Donc, progrès technologique. OK, tarifs douaniers, progrès technologique.
L'amélioration des conditions de vie.
On a dit ça. Autrement
c'est
dit,
c'est
ouais. OK.
Pas de monétarisme.
Ah. OK, qu'est-ce que tu fais?
Hein?
Tu détruis la monnaie. Tu détruis tout.
Non.
Qu'est-ce que t'as à la place?
Crédit.
OK. Tu fournis ça comment, tu fais du crédit?
Concret. Banque nationale.
Ah, OK. Oui, ça sent bon. Jean-Philippe, est-ce que tu as...
Bombarder l'Irak.
OK.
Je sais qu'Abraham, j'ai des wet dreams. Prendre ça dans le
cerveau. OK, on revient là-bas. Bon, je pense que je vais prendre le contrôle de la discussion pour l'instant.
Je vais jouer du ukulélé la prochaine fois.
OK, mais... OK, l'idée... Ce que je vais retenir... Bon, je vais retenir le principe de bien-être général. Je pense que ça, ça englobe... Ben, loi naturelle, bien-être général. Je pense que ça englobe l'idée derrière le principe d'un État-nation. Pourquoi tu as un pays où tu aurais des représentants élus? C'est pour qu'ils soient en charge du bien-être général. Si on est d'accord. Maintenant... Le système américain, basé sur ces principes-là, qui ont été sur papier dans la Déclaration d'indépendance, dans la Constitution américaine, les politiques qui ont été mises en place par les gens comme George Washington, en tant que premier président américain, son secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton, ben c'était ça. C'était... Voilà, Alexander Hamilton. C'était l'idée d'avoir du crédit public, d'avoir une banque nationale et d'avoir du développement intérieur. Maintenant, le tarif, ça, ça fait partie de cette question-là de développement intérieur. Parce que si vous êtes des colonies, vous décidez de passer d'une colonie à être un pays, il faut être... d'une certaine manière autosuffisant, où il faut être capable de se donner les moyens, les outils pour se bâtir nous-mêmes, au lieu d'exporter nos ressources naturelles d'un autre pays ou dans une autre colonie qui aurait une manufacture qui changerait le produit en produit fini puis nous le revendrait. C'est pas efficace. Puis notre population va jamais changer. Va toujours être à un niveau où c'est soit de l'agriculture ou soit du minage. Donc ça, c'est pas intéressant. Si tu veux avoir un pays qui est indépendant, de toujours avoir besoin d'un autre pour te fournir en biens, non, ça marche pas. Surtout en termes d'industrie. Donc ça, Hamilton l'avait compris. Il l'avait énuméré dans ces trois rapports-là. Écrit juste après que la Constitution américaine, ou dans le passage, l'époque du passage de la Constitution américaine, là je parle de la deuxième, mais celle fédérale, pas de la Confédération, qui existe toujours aujourd'hui. Maintenant, Lincoln comprenait ça, parce que lui se revendiquait justement du système américain. Et j'ai une citation ici qui en atteste, ça c'est la preuve irréfutable. Il dit, dans son premier discours, Abraham Lincoln à l'âge de 21 ans se présente, je crois que c'est pour au niveau de l'État de l'Illinois, pour le congrès de l'Illinois. Il se présente pour la Chambre et il fait un discours. Là, je pense que ça, c'est juste une citation, mais il fait un discours dans lequel il dit, quote, « My politics are short and sweet, like the old woman's dance. I am in favor of a national bank. I am in favor of the internal improvement system and a high tariff. » End quote.
Lincoln ou...
Ça, c'est Lincoln, à l'âge de 21 ans.
Est-ce que
c'est répété? Ouais. « My politics are short and sweet, like the old women's dance. I am in favor of a national bank. I am in favor of the internal improvement, improvement system and a high tariff.
Okay. »
Donc, même les femmes étaient en accord avec les banques nationales. Non. Non, ça c'était la blague. Vous avez compris? Non. Mais, ouais, Lincoln c'était un bon blagueur. Il aimait ça faire des blagues. Ça aidait le moral, surtout dans une guerre civile. C'est pas évident. Mais, il avait cette idée-là qu'il avait déjà mentionnée à 21 ans, lors de sa première campagne électorale, que c'était une banque nationale, c'était du développement intérieur de la nation, puis des tarifs. C'était ça sa politique. et jusqu'au jour de sa mort, c'était ça sa politique. Donc, Lincoln, c'était un gars de principe. Et il s'est battu pour ces politiques-là pendant des années et des années. Il a perdu des élections pour ces politiques-là. Il en a gagné pour ces politiques-là. Et il est devenu le président pour ces politiques-là. Mais avant que Lincoln devienne président, il y a eu plein d'autres présidents, comme vous devez le savoir, qui n'étaient pas tous pour les politiques de développement intérieur, de tarifs, de banque nationale. Commençons seulement. J'espère que vous allez voir mon oncle là, ça va. Mais je vais juste passer vite. Mais après Hamilton, le système américain ça a été houleux. Les différents présidents qui sont venus après, qui sont allés en fait totalement contre les politiques d'Hamilton, mais contre la Constitution américaine, en fait. Tels des gens comme Andrew Jackson, qui était président entre 1829 et 1837, qui lui, en fait, a laissé tomber la Banque nationale et a fait en sorte de donner le contrôle de l'émission de crédit des États-Unis aux banques privées. Donc, il n'y avait pas de crédit public quand Abraham Lincoln est arrivé au pouvoir en 1860. Ça n'existait pas. Il y avait... Ce qui se passait aux États-Unis à ce moment-là, c'est qu'il y avait 1496 banques. Mm-hmm. Et chaque banque émettait des notes de crédit. OK? Il n'y avait, même pas de devise nationale.
C'est qu'il y avait 1400 quelques en monnaie.
Genre, ouais. C'est ça. Payable en or. Donc, c'était le gold standard de l'Empire britannique. Ouais, j'ai pas recensé s'il y avait vraiment 1496 notes, mais les banques, c'est comme ça qu'ils s'organisaient, donc j'imagine.
Il y avait une note par banque?
Ben, les banques émettaient leur propre argent.
Wow!
Comme au Canada. Ouais.
Genre, ouais. c'est comme si t'avais... Ouais, dans un sens, les cartes de crédit, c'est un peu ça.
Non, mais non, parce qu'on avait la Banque de Toronto, la Banque de Montréal.
Ben, c'est ça. Ben, ça, c'est à l'époque, ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, c'est pas pire, on a rien que 5 banques, là. Mais... Là, on a une devise, mais...
C'est quand même comme chaque banque a issué leur propre...
Ouais, c'est ça. Exact. Payable en or. Et là, ça, c'était depuis Andrew Jackson. Depuis qu'Andrew Jackson avait laissé la deuxième... Banque nationale des États-Unis perdre son mandat.
Oh.
Ouais.
C'est Hamilton qui a poussé la première, c'est ça?
C'est ça. Et donc après Andrew Jackson, il y a une grosse crise financière, la panique de 1837, où justement le système financier, il n'y a plus rien qui marche. Pour genre, dans le fond, ces raisons-là, que l'argent n'allait plus dans le développement de l'économie physique, n'allait pas dans le développement de l'économie des États-Unis. Et donc, il y a une panique en 1837. Au même moment, là, on parle, les partis en présence à ce moment-là, c'est le Parti démocrate et le Parti Whig. Donc, les fédéralistes qu'on avait vus dans la dernière classe, eux, ils n'existent plus. Il n'y a plus de fédéralistes. Et le transfert, les gens qui étaient sortis, comme John Quincy Adams, qui étaient sortis du Parti fédéraliste pour aller avec les démocrates dans le dernier terme de Jefferson, maintenant, eux se retrouvaient dans le Parti Whig. Ils avaient déserté, surtout depuis que Andrew Jackson était en poste, de complètement déserter les démocrates. Puis les démocrates étaient devenus ce qu'était sous Lincoln, c'est-à-dire le parti du Ku Klux Klan. Donc, c'était ça qui était en train d'arriver au Parti démocrate, avec le populisme d'Andrew Jackson qui était soi-disant contre les, les monopoles des banques, contre les banquiers, usuriers, blablabla, mais qui a détruit le crédit national des États-Unis. Donc, ça c'est important à savoir, qu'il y avait aussi dans le parti Whig, maintenant il y avait une autre génération qui était là, qui se battait pour le système américain, des gens tels Henry Clay, William Henry Harrison, Daniel Webster, Zachary Taylor, il y en avait bien d'autres, et puis ben Henry Carey. Et Lincoln était aussi le chef du parti Whig en Illinois jusqu'à 1856, quand le parti républicain a été formé par Lincoln. Ces gens-là appelaient à la reformation d'une banque nationale pour émettre le crédit et soutenaient leur politique en disant « c'est le système américain qu'on veut ». Donc, ça, c'était assez clair à l'époque. Donc, les présidents se succèdent. Il y a Andrew Jackson, qui détruit la Banque nationale. Martin Van Buren, qui est aussi allié avec les cercles financiers de Wall Street. Après ça, premier président Whig, William Henry Harrison, qui va mourir... Ben, il prend poste en 1841 et il meurt en 1841. Donc, il reste président pendant un mois. C'est un peu douteux à l'époque. Mais, bon, il meurt en poste. John Tyler, qui est son vice-président, prend la place et se fait mettre dehors du parti Whig parce qu'il fait la promotion d'une politique, justement, il veut réduire les tarifs, il veut pas de banque nationale, il veut pas ci, il veut pas ça. Donc, les Whigs disent, ben, excuse, mais t'es pas dans le... t'es out, là. t'étais le vice-président d'un président Whig, t'es dans le parti Whig, t'es censé aller avec la politique du système américain. Lui, il fait totalement l'inverse. Et donc, il dit, ok, t'es out. Désolé. Donc, il va pas rester au pouvoir longtemps. Parce que là, il se retrouve à être pas de parti.
C'est Van Buren.
Ça, c'est John Tyler. Après ça, il y a James Polk, qui est un démocrate. Donc, c'est la même politique de Jackson. Zachary Taylor, deuxième président Whig, mais qui ne sera pas là nécessairement longtemps. Il va aussi mourir en poste. Donc, deux présidents Whig, les deux meurent en moins d'un an après être devenu président. Je ne sais pas, c'est un peu louche. Mais, et après ça, ben, ça se continue. Fillmore, Pierce, Buchanan. Buchanan, en tant que président, va même, ça c'est à peu près tous des démocrates, sauf Fillmore. Mais Buchanan, en tant que président, va dire, moi j'ai rien à dire sur l'idée de sécession. Moi je suis juste le président, j'applique la loi. J'ai aucun droit de dire qu'il y a des gens qui veulent... S'il y a des États qui veulent partir, moi, c'est ce que je voulais que je fasse. Donc, en fait, Buchanan est clair. Si les États font sécession, lui, il ne les empêchera pas. Donc, d'une certaine manière, il travaille pour eux. Maintenant, d'où ça vient l'idée de sécession? Parce que c'est juste, damn, ça arrive, les gens sont écœurés. Et puis ils se disent, ok, nous on part de notre côté, on n'est pas d'accord avec vous, les beaux principes, ouais, mais je pense que notre propriété est plus importante, propriété privée. Est-ce que ça c'est juste arrivé d'une manière spontanée?
C'est l'affaire de la propriété au-delà du...
Ben,
la politique de qui, du
coup? Ben, c'est ça, c'est la sécession, c'est la politique de qui? Parce que dans la classe que j'avais donnée auparavant, le mouvement pour la sécession des États-Unis avait déjà existé avec Aaron Burr, qui était le vice-président sous Thomas Jefferson. Bon, Jefferson n'était pas pour la sécession des États du Sud. Il était pour l'Union. Mais Aaron Burr, lui, avait fait un deal avec les Britanniques pour créer une scission des États de l'Ouest, surtout, et pour mettre ça sous la couronne espagnole.
No way.
Ouais.
La couronne espagnole.
Ouais, exact.
Les Britanniques.
Qui était en connivence avec les Britanniques.
Du Canada ou de Londres?
Les Espagnols.
Non.
Hein?
Andrew Jackson. C'est Andrew Jackson, ça? Non, c'est pas Andrew Jackson.
Ça, c'est Aaron Burr.
Aaron Burr, il y a quoi? Connivence avec les Britanniques. Du Canada ou ceux de.
Ouais, du Canada. Mais il était allé à Londres aussi. Okay. En discussion avec l'ambassadeur de Londres. Directement.
Ok. C'est comme un film 1900.
Ah ouais, on a parlé dans ça. Ouais. Oui, exactement. On avait la citation exacte de l'ambassadeur britannique aux États-Unis qui envoie une lettre, si je me rappelle bien, soit à Lord.
C'est Lord Shelburne.
À l'époque, c'était Shelburne, oui. Hi. Salut. Comme quoi, ils avaient des gens en place dans le gouvernement américain qui seraient prêts à faire sécession. Serait prêt à aider la Grande-Bretagne à reprendre les États-Unis comme colonie. Ouais. Allez voir le 132.
De Burr.
De Burr.
Alan Burr.
Aaron.
La même personne qui a tué Alexander Hamilton.
Exactement.
Ah oui, c'est le même.
Exactement. Ouais. Donc. Juste pour voir, pas en oublier des goûts, mais.
Ouais.
Donc, c'est ça. Ok, donc. Donc, Abraham Lincoln arrive au pouvoir. Rien ne va plus. Les États-Unis sont en faillite. Il y a sécession. Il y a des États qui font sécession. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il arrive au pouvoir et, malchance, le congrès est en vacances. Donc, il est inauguré et puis le congrès est en vacances. Donc, lui, il arrive à Washington et dit, OK, comment on fait passer une loi pour arrêter les folies? Mettre fin à justement la rébellion, puis aller pour la politique du système américain. Donc, il n'y a pas de monnaie nationale, comme on a dit tout à l'heure. Les banques font qu'imprimer leurs notes et qui sont payables. Ils ont un deal avec sûrement la Associated Banks of New York, qui est menée par le fils d'Albert Gallatin, qui était le secrétaire au trésor de Jefferson, un banquier suisse, qui lui aussi était derrière le coup de Aaron Burr pour assassiner Hamilton, et qui était aussi derrière l'assassinat, derrière l'idée de sécession des États de l'Ouest, avec Andrew Jackson, avec Aaron Burr, avec les autres banquiers de Wall Street. Donc, Lincoln arrive et dit, OK, on va créer de l'argent pour le gouvernement. Ça va pas se faire si vite que ça, mais il va avoir des gens autour de lui. Quel est son nom? J'ai son nom pas loin. Ouais, c'est ça. Des gens comme Thaddeus Stevens, qui est le chef du House Ways and Means Committee. Qui vont l'épauler, et Jay Cook, un banquier, mais un bon, ce qui semble être un oxymoron, mais non. Il y avait des bons banquiers à l'époque. Qui va aider, les deux vont aider Lincoln à faire passer une loi dans, dans la Chambre. Et cependant, il va y avoir un compromis. Donc l'idée, comment je pourrais exposer? On a parlé des banques. Les banques sont privées. Il y en a 1496. Elles émettent tous leurs notes qui sont repayables en or. C'est ça qui dirige l'économie depuis que Andrew Jackson a détruit la Banque nationale américaine. So far, so good. OK. Là, Lincoln arrive. Il dit, OK, il faut arrêter l'émeute, il faut arrêter la rébellion. Faut financer les troupes. Et là, ben, il va y avoir des meetings avec les gens comme John, Jacob Astor, James Gallatin. Ils vont aller le voir dans son bureau, ils vont lui dire, OK, tu veux financer les troupes? Pas de problème. On va te passer de l'argent. On va te passer de l'argent à haut taux d'intérêt. Ça veut dire que tu vas te faire une dette. Hein? Et on fait ça à haut taux d'intérêt parce qu'on veut que les gens à Londres puissent se faire de l'argent aussi avec ça. N'est-ce pas? À l'époque, c'est la livre sterling qui est la monnaie d'échange au niveau international. C'est l'Empire britannique. Ouais. Même aux États-Unis.
Oh,
oui. Ouais. Dans le commerce international. Et c'est ça qui était, quand tu parles de l'or, du gold standard, gold and silver standard, ben ça c'était le système britannique qui était en place mondialement. Donc tu pouvais avoir du papier, mais il fallait que ça soit repayable en or. Lincoln leur montre la porte. Il dit, OK, ciao, pas besoin de vous. On va faire autrement. On va créer une monnaie nationale. Et l'idée, c'était que... je vais vous le montrer. Où est donc ce greenback? Voilà. Ça, c'est le greenback. Un des modèles pour le greenback de Lincoln. Et vous l'appelez le greenback, pourquoi? Parce que le dos est vert. Aussi simple que ça. Donc, l'idée derrière le greenback, c'est que ça va être l'argent pour financer les troupes, pour financer les chemins de fer, pour financer le développement intérieur des États-Unis. Et là-dessus, ben, ils vont émettre le crédit, émettre des bons du Trésor américain pour 20 ans à 5 % d'intérêt.
Le greenback, ça s'appuie sur quoi?
Aha! Bonne question. Ben, ça s'appuie sur la confiance qu'on va gagner. Sur la confiance que c'est les principes de la Déclaration d'indépendance qui vont gagner à la fin.
Durant la guerre de sécession.
Ouais, exact.
Wow.
Donc au départ, c'est pas basé sur l'or. Là, c'est là où il y a le compromis qui arrive. Parce que ce que Lincoln amène en termes de loi, il va amener le National Currency Act, qui fait en sorte que le greenback, ben, tu peux échanger, t'as des notes, des banques privées. Ça, tu peux les échanger, pas de problème. Ce qu'on te redonne en échange, c'est les greenbacks. OK? Donc, tu mets ça à la banque. Quand tu veux ressortir ton argent, on va te redonner ton argent en greenback. Donc, les greenbacks deviennent la monnaie nationale. Si tu veux échanger, c'est en greenback. Le compromis va être dans... va être inséré là-dedans, dans le National Currency Act. C'est-à-dire que on te repaye en greenback, c'est maintenant ça la monnaie. On ne te repaye pas en or ou en argent ou en peu importe les notes que les banques avaient. On te repaye en greenback, sauf qu'ils ajoutent la gang de Astor et de Gallatin à New York. Sont capables à l'époque de mettre la pression sur les congressistes pour qu'ils ajoutent c'est un genre d'amendement ou ajouter une clause qui dit que, OK, en greenback, mais les intérêts sur les greenbacks, sur les bons du trésor, peuvent être payés en or. Là, ça vient un peu, ça undermine, ça réduit un peu ce que Lincoln voulait faire. Parce qu'à ce moment-là, ils font de la spéculation sur la valeur de l'or et donc sur la valeur du greenback, des intérêts des greenbacks.
Mais c'était pas un peu pour s'approprier comme l'or un peu de la population, en émettant des greenbacks?
L'idée, c'est que pourquoi on devrait, juste comme ça, qu'est-ce qui fait que l'or, ça donne la valeur? Ou qu'est-ce qui donne la valeur à l'or, en premier lieu? Surtout le consensus. Parce que l'or, on s'en sert pour quoi? La majorité des trucs, c'est des bijoux, right?
Mais l'or, dans le billet représente, on dit étalon d'or, ça veut dire une vraie quantité d'or.
Ah ah, ouais.
Supposé.
Mais
c'est
une vraie quantité d'or.
Dans la fabrication.
Mais non, pas depuis 1960.
Des choses, en tout cas, un peu plus aujourd'hui qu'autrefois.
Ouais, en plus.
Donc
là.
Comme un consensus historique, un peu.
Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant de la conception, non seulement de Lincoln, mais d'Alexander Hamilton, qui ont développé un système où justement, oui, tu as toujours l'or qui est là, ok, mais c'est pas ça le principe pour faire en sorte que ça va te donner de la valeur. La vraie valeur va sortir du développement de qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là. Comment est-ce que le fait d'avoir plus d'argent pour les gens va élever leur niveau de vie? Ou est-ce qu'il y a une corrélation? Parce que si les gens ont plus d'argent, mais que tout ce que tu as, c'est des casinos, puis des drogues, admettons, la population va pas être en meilleur état. Mais la conception économique de Lincoln, de Hamilton, de Lincoln, de Roosevelt et de Larouche, dire OK, mais c'est pour quoi faire l'économie? D'où vient l'économie, puis c'est pour quoi faire.
Mais
je laisse en suspens.
ça me fait penser au triple curve.
Ouais. Ah, t'as manqué le début, hein. Mais t'as vu la nouvelle?
Pas en détail.
OK. Ouais. Ben, vas-y.
Mais en nutshell, comme les trois courbes représentaient quoi? Comme pour moi, celle du bas, là, c'était... physical exchange, physical input, output.
Ouais.
Pour moi, c'est comme les échanges.
Ok. C'est une partie, ouais.
Mais monetary aggregates, et puis l'autre, c'était quoi?
Financial aggregates.
Financial aggregates.
Ouais.
J'aimerais comprendre la
relation. Ok. Peut-être je pourrais revenir là-dessus peut-être un peu plus vers la fin, mais ouais, on a une nouvelle triple courbe. Puis même, on a mis à un moment donné, je vais essayer de la trouver, mais on a une courbe, une triple courbe, mais qui serait hamiltonienne.
Okay.
Alors, comment fonctionnerait une économie hamiltonienne en termes de relation de, je pense, ces trois courbes-là? Qu'est-ce qui devrait diriger l'action, diriger la dynamique?
Ça ressemblerait.
Ben, ce serait le input-output, l'économie physique, qui serait la courbe du dessus, qui augmenterait d'une manière,
exponentielle.
Ouais, un peu exponentielle, où les autres, en fait, augmenteraient peut-être de manière, peut-être pas géométrique, mais un peu plus qu'arithmétique. C'est pas juste des lignes droites, mais qui augmenteraient de... en proportion, comme d'une certaine proportion, avec la courbe physique.
Ce serait l'économie physique qui dirigerait la dynamique de la courbe.
Exact. Et ça c'est c'était la conception d'Hamilton, c'est la conception de Lincoln. Et c'est pour ça qu'il se battait pour que le gouvernement ait le contrôle sur la monnaie. sur ce, un outil de développement.
C'est comme l'économie physique qui mène à des agrégats plutôt que le contraire.
C'est ça. Ouais. C'est que tu dois avoir une base pour que les gens vivent. Après ça, si les gens veulent... Ben, j'avais pas spéculé, là, mais...
Accumuler.
Ouais. Ben, ça, c'est secondaire. Mais ça doit être sous-jacent à ce qui se passe dans l'univers physique réel. Donc, on peut revenir à ça.
Juste une question.
Mais, ouais.
L'économie physique dans les deux cours, que ce soit la méthane ou l'initiale, ça inclut le commerce, le réel bien, en position à ce qu'on considère la spéculation. Qui...
Ça, c'est les agrégats financiers.
OK.
La spéculation, c'est...
L'économie des commerces, ça c'est inclus dans l'accumulation, dans l'économie physique, dans la courbe.
Ouais, ben, c'est l'idée... tu vas voir le commerce, mais ça, c'est une fraction. Ce que tu veux voir, c'est pas juste le input output en termes de biens de consommation, mais tu veux voir aussi en termes de bâtir des infrastructures. Hein? Parce que ce qui est intéressant, attendez, je vais vous donner juste pour un exemple. On va peut-être faire ça un peu plus court, mais je vais vous donner, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est là où Larouche avait dit à un moment donné, je ne me rappelle plus lequel des webcasts, peut-être tu t'en rappelles, on était à Détroit. Il a dit, c'est beaucoup plus efficace d'avoir des métros qui sont gratuits. Mm-hmm. C'est en ayant du transport gratuit de masse que tu vas booster ton économie. Ça va être beaucoup plus rentable. Qu'il y ait des gens, que tu emploies des gens qui soient là pour collecter... tiens un peu d'argent à chaque fois que les gens tournent le tourniquet, passent le tourniquet, puis de créer un système qui est là pour engranger des petites sommes qui va te coûter plus cher que ce que les gens payent pour prendre le transport, en tout cas. Puis à un moment donné, quand ton économie physique se désintègre, de décider de taxer de plus en plus les transports publics, ça fait en sorte que les gens ben sont plus capables de se transporter.
Même avec les postes de péage, là, c'est comme si ça...
Même affaire.
Ça menait à la désintégration.
C'est ça. Mais c'est féodal.
Volontaire.
C'est le Parti libéral, je pense que c'est les jeunes du Parti libéral qui ont voté là-dessus.
Oui, c'est ça.
C'est une politique féodale.
Jean Charest.
Je sais.
Ça,
Voyons donc.
C'est qui le seigneur féodal de...
Ah, boy. Ouais. Mais c'est ça. C'est l'abrutissement de 40 ans de libre-échange.
Il est fier aussi de... sa proposition.
Ah ouais, il est clair. Bravo.
La politique du cerf.
Il devrait sortir de son bureau quand on va déployer à McGill. On devrait lui donner un petit cours d'économie physique. Mais je vais vous donner juste des nombres, mais vraiment intéressant de voir. Là, on passe un peu, c'est après Lincoln. Faut comprendre, pendant la guerre civile, je veux dire, il y a énormément de production qui se fait. Le Nord est quasiment tout seul à produire, puis le Sud reçoit des canons en provenance de la Grande-Bretagne, de l'Europe au complet. Donc, il faut un déploiement de masse que Lincoln organise à partir des greenbacks. Mais le plus gros de la production est détruit parce que c'est la guerre. On produit, mais pour que ça soit détruit. C'est pour ça que les guerres, contrairement à l'idée reçue populairement, que les guerres font tout le temps en sorte qu'on s'en sort, puis ça recrée l'économie, puis ça repart tout. Non. Parce qu'une guerre, ça détruit. C'est ça une guerre. Donc on produit, oui, mais pour détruire. Donc ça vaut rien. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'effort de guerre a fait en sorte de produire des nouvelles technologies, produire des nouvelles manières de produire qui, là, à ce moment-là, vont être utiles, seulement si l'Union gagne, à développer le restant des États-Unis. Et quand on sait que l'Union gagne, et ce qui se passe, c'est que, comme on disait, quand on réduit les coûts de transport, là, je veux vous dire, les prix de transport, admettons de Chicago à New York, entre 1867 et 1872. Si vous transportiez du fret par bateau, ça vous aurait coûté 22 $. Comparativement à si vous utilisez les rails, le chemin de fer, toujours de Chicago à New York, ça vous en coûte 44 $. Donc le double.
Bateau versus rail.
Bateau versus rail.
Ouais. Double le bateau.
Ouais, c'est deux fois plus cher d'envoyer par rail. Ça, c'est en 1867.
Chicago à où?
Maintenant, Chicago à New York. Maintenant, en 1872, de passer votre fret de en bateau ou en rail, la proportion maintenant est par eau, ça va vous coûter 24 $, et par rail, ça va vous coûter 33. Donc, il y a une relation où le plus que le chemin de fer se développe, le moins ça coûte cher à faire transporter des biens d'une place à une autre. En 1881, pour faire passer par bateau de toujours Chicago à New York, ça vous en coûterait pour le même montant, ça serait 8 $. Et par rail, ça serait 14 $. Donc, il y a une économie de coût dans les transports. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que le développement des infrastructures, le développement de nouvelles technologies vont vous amener à réduire les coûts. Donc, si vous voulez engranger des profits, faut pas mettre des tolls. faut pas mettre des postes de péage sur toutes les autoroutes du Québec.
Est-ce que tu empêches le développement des autoroutes? Pour quelle raison?
Ben, tu es en train de taxer juste le transport. Mais le transport, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment... ça va être de réduire le coût entre où tu produis et qui l'utilise. C'est pas intéressant.
Tu ne réduis pas les coûts en... Je fais l'avocat du diable.
Ouais, vas-y.
Je ne pas les coûts en utilisant les postes de péage, dans les coûts de manutention, pas manutention d'entretien qui vont être délégués maintenant à une corporation privée, un propriétaire privé qui, lui, va avoir les profits du poste de péage. C'est ça la logique du marché, c'est que tu fais de la compétition avec des corporations, des individus, des propriétaires privés qui achètent les routes, puis sont obligés de les maintenir pour avoir de la business là, des gens qui passent là-dessus. Puis s'ils ne le font pas avec le profit qu'ils font sur le poste de péage, les gens vont juste aller sur une autre route.
OK, mais qui a bâti la route?
Right? Ça, ils ne le disent pas. Là,
OK, dirais, OK. Là,
mais c'est ça la logique dans un monde qui oublie vite. Là, on vous dit, c'est ça.
Ouais. Ben,
est-ce que c'est moins cher à l'État d'entretenir les routes de cette façon parce que pas l'État qui fait, c'est le propriétaire.
Ouais, fait que c'est une surtaxe dans le fond. Ouais. Fait que l'État a payé pour la route, pour bâtir la route, puis là on va mettre un poste de péage pour que les gens payent pour la route à chaque fois qu'ils passent dessus. Ouais. Je pense que ça répondrait à votre propre question. Quoi?
La façon de se faire rembourser.
Ouais, ben à la fin, ben c'est parce que. Ouais, c'est ça. Ben, comme on disait, c'est vraiment une politique féodale où justement ben, l'intérêt privé. Ouais, ils pourraient remettre de l'argent dans la route, mais s'ils font pas, ils repartent, puis bon, peut-être que l'argent se retrouve dans les Bermudes, mais...
Okay. Est-ce que ça, c'est Alexander Hamilton sur le billet?
Ouais.
Ah
ouais? Je pense bien que oui. Ouais. Ben, ça a été mon impression quand je l'ai vu, là, mais... Ouais.
Ça, c'est qui, la
pièce? Ça, c'est Liberty.
Ah,
okay. Lady Justice.
Lady Justice. Le Greenback, là, à part le contexte comme
pour revenir à ça.
De guerre de sécession, comme selon le système américain, c'est quelque chose qui endosse comme un potentiel de développement économique ou un potentiel de service.
Ben, en fait, c'est que ça actualise ton potentiel parce qu'il y a toujours, dans le fond, un potentiel. Mais c'est que comment tu vas développer une région que. T'as 13 colonies au départ, comment tu fais pour en faire une nation? Puis il n'y a jamais une nation, un pays au niveau international qui s'est bâti avec des politiques de libre-échange. Ça n'a jamais été ça la base, une création de nation. Donc ça, c'est là où... Ça, c'est dans le fond l'expérimentation, la création d'une république par Hamilton, par les pères fondateurs. Puis Hamilton crée un système qui va être appelé le système américain, qui est basé dans le fond sur la Banque nationale, sur le crédit public, sur les manufactures. Là, ben, on peut ajouter l'idée du tarif aussi, qui est mêlée à ça. Mais.
Il y a une question technique par rapport à ta comparaison entre le rail de train et le voyage en bateau de Chicago à New York.
Le bateau,
ça passe par où? J'arrive pas à voir. En lac, Saint-Laurent, tout ce que vous voulez.
Ben, en fait, il n'y avait pas les voies maritimes à l'époque. Mais il y avait des systèmes de canaux, comme la rivière Hudson. Je pense qu'il y a une... j'ai pas regardé, en fait, la carte pour dire vrai, mais il y avait des canaux qui étaient déjà existants, mais ça faisait partie, si tu veux, du projet. Même à l'époque de la Révolution américaine, tu avais un projet d'Hamilton qui était de faire en sorte que tu aies un réseau de canaux qui... intérieur, le intercoastal, ça existe dans différents états, sauf que lui voulait le faire en entier pour la côte est des États-Unis, c'est-à-dire creuser les canaux pour relier tous les états, parce qu'il savait que ça coûtait moins cher de juste passer le fret avec, sur l'eau. Maintenant, Lincoln, bon, ça s'est pas fait, mais le développement du réseau de chemin de fer, ça, ça décuple justement le potentiel de l'Union. C'est vraiment là-dessus que Abraham Lincoln va se battre avec les gens que j'ai nommés avant, les Thaddeus Stevens, les Jay Cook et autres, pour amener cette conception-là de l'économie qui doit être pour pas juste battre le Sud, mais pour faire en sorte que, en gagnant la guerre, ils vont être capables d'amener un standard de vie, de le hausser partout. D'amener justement ces principes-là qui ont été mis sur papier dans la Déclaration d'indépendance, dans la Constitution, à se réaliser, à se matérialiser. Et ça, c'est ça qui sous-tend, c'est ça le principe en fait supérieur de la politique de Lincoln pour le développement intérieur, le crédit public, la Banque nationale et les chemins de fer. Non, c'est pas juste de faire en sorte que le prix par chemin de fer soit plus bas que par eau, mais c'est de faire en sorte que on va vraiment développer le pays au complet, puis on va faire en sorte que la population en soit développée économiquement parlant. Et ça c'était une des grandes batailles. C'est ça aussi qui était en train d'être fait pendant la guerre, pour essayer dans un sens d'encercler les colonies du Sud, de vraiment développer le plus possible. C'est pour ça que je veux ajouter aussi, c'est un peu comme on a commencé, mais la question de l'être humain. La question du système américain, tel que mentionné par Henry Carey dans sa citation. Les États de l'Union avaient une politique aussi d'immigration qui était forte, parce qu'ils étaient en train de se développer. Il y avait besoin de main-d'œuvre, il y avait besoin de gens pour venir développer les manufactures. Et donc, Lincoln... Il y avait une politique d'immigration qui était fulgurante. Et ça, c'est intéressant à voir parce que c'est ça. Le principe du système américain, c'est de faire en sorte que plus d'êtres humains peuvent vivre au même standard que tous les autres et même améliorer leur standard de génération en génération. Et c'est ça qui a attiré les gens aux États-Unis dès le départ. Là, je ne sais pas, on a fait des diverses. Je vais juste revenir dans le. Tu peux me poser ta question, je vais juste voir si je me suis pas trop égaré, là, parce que c'est la première fois que je donne cette classe. Mais vas-y, t'as une question?
Ah, oh, mais. Ben non, en fait, comme est-ce qu'on peut dire un peu que le greenback, hein, émettre un greenback, c'est finalement comme une promesse de développement d'un
ouais.
secteur clé de l'économie. Fait
exact.
C'est comme si vraiment une création de vraie richesse.
C'est ça.
C'est comme en retour de la création, je crée de la richesse
mm-hmm.
et tu me donnes ta confiance.
Ouais, exactement. Je vais juste montrer. C'est ici qui est intéressant.
Il n'y avait rien d'imparfait à ce moment-là. C'était purement sur une spéculation par rapport à la victoire du Nord sur le Sud.
Mais pas juste par rapport à la victoire du Nord sur le Sud, mais vraiment en termes de principe de qu'est-ce qui devrait orienter les gens, ce ne serait pas le capital. Right? Comme il disait, c'est le labor qui précède le capital.
Oh.
Ouais. Ça, c'était la première citation que j'ai montrée.
C'est comme principle
ou la deuxième.
Faith. Like, you have to have faith that in the government, in the back.
Ouais.
That there's going to be a future, that there's a
future.
But not.
Ouais.
Right.
C'est pour ça que les gens se révoltent contre Obama en ce moment. Mais en fait. Juste remontrer ça, c'est directement là dans la Constitution, l'article 1, section 8, qui donne le pouvoir au Congrès d'émettre sa propre monnaie.
C'est vraiment écrit la section 8. Là. Seul le gouvernement est
ouais,
autorisé.
Ouais, c'est marqué le Congrès aura le pouvoir de lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de payer leurs dettes, les dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale des États. Mais les droits à impôts et excise sont uniformes dans toute l'étendue des États-Unis. De faire des emprunts sur le crédit des États-Unis. Hein? D'établir une règle uniforme de naturalisation et de loi uniforme au sujet des faillites applicables dans toute l'étendue des États-Unis. Elle est là, la loi sur la faillite. De battre monnaie, d'en déterminer la valeur et celle de la monnaie étrangère. Et de fixer les talons des poids et mesures.
Tout ça, scénario.
C'est ça.
Est-ce que c'est le seul? Est-ce que c'est
ironie du sort, ouais.
Selon la Constitution, c'est le Congrès qui est le seul pouvoir.
C'est le Congrès qui passe la loi, le président la signe.
Je comprends.
Voilà.
Est-ce que le Congrès c'est spécifique, c'est eux seuls qui ont le droit de faire ça?
Soit passé par le Congrès.
Oui.
La Réserve fédérale ne va pas décider comme elle a fait des lois.
Mais Alan Greenspan a dit qu'on fait des choses qui ne passent pas par le Congrès. Personne sur le personne au gouvernement, il a dit ne peut contredire ce qu'on fait. C'est ce qu'il a dit live sur la télé.
Ah, j'en doute pas, mais c'est ça.
Fait,
ces gens-là, c'est des menteurs.
Il disait en même temps que le Congrès, ça n'aide pas nos décisions. Il n'y a pas de problème, ce qu'ils font.
Donc, si la Constitution américaine, c'est la loi du pays, c'est illégal ce qu'il y a.
Oui, c'est sûr.
Comment, il n'y a pas des centaines d'avocats qui ont sauté sur cette occasion. C'est quasi en or.
Mais par rapport à ça, qu'est-ce que ça dit comme sur l'interventionnisme d'État? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de perceptions aux États-Unis comme le rôle de l'entreprise privée, c'est, tu sais, versus le protectionnisme d'État, les démocrates et les républicains, tout ça.
Ouais.
Mais, finalement, ça, c'est l'interventionnisme nécessaire.
Ouais.
Mais.
Ouais.
Mais l'entreprise
c'est...
privée, en même temps, ça nous protège des excès de magouilles de l'extérieur, de plus hauts échelons. C'est comme.
Ben, c'est que, comme les congressistes sont en train de se rendre compte, c'est qu'ils sont redevables aux citoyens américains. le citoyen américain a été un peu slack sur les congressistes pendant un bon bout de temps. Mais là, on est en train de voir que, justement, la situation que Mathieu a élaborée sur le potentiel de Révolution française est présent en ce moment aux États-Unis, au niveau international, mais on voit en tant que tel aux États-Unis, c'est flagrant. Mais les congressistes sont en train de se faire bardasser, comme on dit. Ils sont en train de se faire mettre dans le coin. Puis, c'est ça, le problème, c'est que les congressistes pensaient qu'ils pouvaient s'en sortir juste en faisant rien. Qu'ils pouvaient justement être non-interventionnistes puis laisser faire la réserve fédérale de son côté. Mais le principe d'être élu, c'est justement de faire quelque chose pour la population. C'est de se mettre au service de la population. Et donc, c'est ça, les débats souvent autour de intervention, pas intervention, est-ce que c'est du communisme, blablabla. Quand les pères fondateurs ont écrit la déclaration d'indépendance, quand ils ont écrit la constitution américaine, le communisme n'existait même pas encore. Il n'y a personne qui avait entendu parler de ça.
Mais il y avait une idée d'interventionnisme.
Oui, ah, certainement. Oui, parce que l'idée de l'État, c'était l'idée que tu allais avoir des gens élus qui prendraient soin d'organiser la société pour le bien-être général. Donc, ça ne dit pas juste on va nationaliser tout. Ça ne dit pas on va aller seulement avec l'entreprise privée. Ouais.
Il n'y avait rien qui parlait du capitalisme. Non? Tandis qu'on parle de protéger les droits de la propriété comme n'importe quel autre droit. En fait, ça, c'est...
Mais sauf que ça, c'est pas les vrais, les droits qu'ils mentionnent, vie, liberté, poursuite du bonheur, dans la déclaration d'indépendance.
Mais
ça, c'est la situation qu'on a eue tantôt.
Ouais.
Mais c'est, je veux dire, les gens ont droit à leur propriété, c'est pas un problème, ça.
Okay.
Mais une propriété peut pas être une personne. Right?
Non, c'est ça.
Ça, c'était le gros débat à l'époque de Lincoln. Est-ce que ta propriété, est-ce que c'est des personnes?
Mais le capitalisme, dans tout ça, comme la loi de l'offre et la demande.
Ah, c'est pas dans la Constitution, non.
C'est pas dans la Constitution. Donc, je sais que vous avez parlé à un moment donné d'Adam Smith, là, il y a pas.
Ouais.
Qu'est-ce que.
Lui non plus, il est pas dans la Constitution. Mais le principe, justement, de la Constitution, en fait, c'est d'aller contre Adam Smith, dans un sens.
Contre Adam Smith.
Ouais. Parce que quand tu regardes, pas nécessairement son travail sur la richesse des nations, mais plutôt son œuvre maîtresse, là, celle qui affectionnait le plus, c'était son essai sur les sentiments moraux. Et si tu vois sa théorie de qu'est-ce qu'est l'être humain dans son œuvre sur les sentiments moraux, tu te rends compte que, ouais... Lui, c'est la propriété, c'est pas juste la propriété, mais c'est le bien-être, pas général, c'est le bien-être de l'individu, pour lui. Donc, si l'individu est correct, la société devrait aller. C'est une extrapolation de l'inter... Hein?
De tous les individus dans la société.
Ouais.
De...
Ben lui, il voit l'idée de l'individu et le monde entier. Même dans son état de la richesse des nations, il ne parle pas des nations. Je veux dire, si l'individu va bien, les échanges entre tous les individus, il faut laisser ça à la main invisible. Right? Ça vient vraiment, c'est une politique confectionnée pour l'Empire britannique, pour récupérer aussi les colonies américaines.
Scientifiquement, il se basait sur quelque chose.
Non, juste sur le sophisme.
Ah ouais, c'est une argumentation purement, il n'y avait pas d'exemple.
Ah, il devait donner des exemples, mais l'idée c'était pour détruire une nation, voici ce que tu fais.
Donc disons, quand la demande pour quelque chose augmente, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
La demande de quoi?
La demande pour l'or.
Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
C'est-à-dire que. De situer comme
l'anti-Adam Smith.
Qu'est-ce que l'anti-Adam Smith ferait avec l'or? Je sais pas, j'ai de la misère un peu à conceptualiser, mais l'idée derrière, si on veut revenir au greenback, l'idée c'est que l'or en fait n'aurait pas d'influence sur la valeur de ta monnaie.
Ni sur la valeur des choses utiles, comme la nourriture ou.
Ouais, mais ça c'est genre c'est le débat, si tu veux, non seulement économique, mais c'est un débat aussi moral. Sur la question, genre, de c'est quoi le système économique qui remplit le mandat de la déclaration d'indépendance des États-Unis.
Autrement dit, comme dans le fond, si Hamilton, c'est un peu comme une promesse de développement économique, disons, si la demande pour quelque chose augmente, il faudrait juste développer économiquement encore plus, comme trouver plus de minerais ou.
Ben, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais il y avait cette idée-là à l'époque. Il y avait une certaine idée parce que l'idéologie monétaire britannique était présente partout dans le monde. Il y avait cette idée-là de l'or, de l'argent comme étant la fondation. En fait, Lincoln, ben Hamilton avant lui, fait une révolution parce qu'il dit « Non, dans le fond, on va s'emprunter à nous-mêmes. On va emprunter sur le crédit des États-Unis d'Amérique. » Puis oui, il y avait une certaine relation avec l'or, l'argent, mais c'était pas ça l'important derrière. Mais est-ce que ça explique quand même?
Oui.
Ouais? OK. Je voulais juste passer à d'autres choses. Qui est une autre citation d'Abraham Lincoln. Qui voudrait la lire? Guillaume, t'as été silencieux jusqu'à date. Que tu veux lire cette citation-là?
Ben,
vas-y. Essaye. On rira pas, toi.
Non.
C'est pas.
Non.
T'as mieux passé? Ok. Est-ce que Rémi, tu veux la lire? Ok. Ah ouais, un petit peu plus fort pour qu'on t'entende dans le. Ouais. Tiens. Vas-y.
Okay. And the government should create, issue, and circulate all the currency and credit needed to satisfy the spending power of the government and the buying power of consumers. The privilege of creating and issuing money is not only the supreme prerogative of government, but it is the government's greatest creative opportunity. By the adoption of these principles, the long-felt want for a uniform medium will be satisfied. The taxpayers will be saved immense sums of interest. The financing of all public enterprises and the conduct of the treasury will become matters of practical administration. Money will cease to be master and become the servant of humanity.
Yeah. Intéressant, hein? Alors, c'était ça l'idée des greenbacks. Et ça va directement avec la Constitution. C'est directement ça qui est stipulé dans le. Il y a une question qui émerge.
Mais comment est-ce qu'ils décident combien d'argent ils vont imprimer? Comment est-ce qu'ils savent combien de besoins ils auraient? Comme avec notre argent, ils pouvaient imprimer tant qu'il y a d'or.
Ouais.
Mais maintenant, ils impriment l'argent pour les besoins. Combien des besoins? Comment, c'était quoi le standard ou la décision pour dire on va imprimer tant de monnaie?
Je vais donner une réponse simple à ça. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de toucher un peu plus dans la prochaine classe. Mais c'est une question que je me pose en ce moment, moi aussi. Parce que, advenant la réorganisation sous la loi de la faillite, telle que Larouche la stipule, OK, à ce moment-là, quand on a un nouveau Bretton Woods, combien on peut imprimer, qu'est-ce qui se passe, inflation, pas inflation. Ça, c'est toujours la bête noire des économistes quand on leur parle aujourd'hui. Mais je ne sais pas comment répondre, sinon de renverser, de dire, ben, comment on crée la richesse dans le fond qu'on est. Parce que l'idée du crédit public, c'est dans le fond de créer une dette avec laquelle on va financer un projet qui va nous rapporter plus que la dette. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut faire qui va rapporter plus qu'est-ce qu'on est en train de mettre. Est-ce que ça... C'est une réponse simple pour l'instant, mais je vais essayer de développer un peu plus ce concept-là dans la prochaine classe. Parce que c'est ça me chicote aussi. That's all you'll get tonight, OK?
Pascal, avec ce système-là, est-ce qu'il y a une façon de permettre une sorte de libre-échange intérieur?
Ben oui, c'est ça l'idée d'une nation, en fait. C'est quand ils disent les barrières tarifaires vont être les mêmes ou même on va les éliminer entre les États. Dans le fond, une nation, c'est un peu, ouais, c'est un peu la seule zone de libre-échange qui existe. Ouais, c'est ça. T'sais, ça serait idiot de juste te taxer à chaque fois que tu passes un État, right?
Non, je comprends, mais...
Tu peux passer...
C'est pourquoi le Canada n'est pas une vraie nation.
Ouais, il y a seulement quelques États, quelques provinces qui ont fait des accords entre elles pour dire ok, ouais. Ben si tu passes ça, on va pas te faire.
Fait qu'on a plus de libre-échange avec la France qu'avec l'Ontario.
Je sais pas, mais c'est peut-être. Ça serait assez paradoxal, mais ouais.
Mais c'est drôle, mais je sais pas, ça fait un petit peu penser à une cellule, comme ça en biologie, quand on regarde la cellule, tout ça. Dans le fond, à l'intérieur, comme dans les organelles, puis tout ça. Tu sais, si les molécules puis les substances passeraient pas de façon fluide, dans le fond, la cellule éclaterait. Donc, c'est sûr qu'autour de la cellule, il y a comme une barrière de protection avec les autres cellules. Puis il y a des, y a comme des échanges contrôlés. Hein.
OK. c'est intéressant que tu dises ça, j'avais pas pensé à ça.
C'est pas la loi naturelle. Hein?
C'est
ça, pas la loi de la moindre action. Si l'univers aurait fait des barrières tarifaires entre les cellules.
Ouais. C'est ça. Mais oui, ben c'est un bon exemple, je trouve. Puis il y a des cancers comme le système monétaire britannique. Mais je pense qu'on a fait un point. Je voulais juste montrer un peu l'opinion britannique à ce moment-là. Ça, c'est en 1865. Donc, bon, pendant ce temps, en Grande-Bretagne, les éditoriaux du London Times transmettent l'opinion de l'oligarchie financière face aux politiques de Lincoln. Je cite, "If this mischievous financial policy, which has its origin in North America, shall become indurated down to a fixture, then the government will furnish its own money without cost. It will pay off debts and be without debt. It will have all the money necessary to carry on its commerce. It will become prosperous, without precedent in the history of the world. The brains and wealth of all countries will go to North America. That country must be destroyed, or it will destroy every monarchy on the globe."
No!
Non!
Non! C'est un peu naïf presque de dire ça, mais le vieil est un peu con. Il s'est exposé.
Ben, les Britanniques, ils font ça souvent. Ben, les oligarques, ils pensent qu'ils sont tellement au-dessus de tout que c'est eux qui font la loi. Et donc, ça, c'était vraiment une opinion des banquiers de la City of London en
1865. Wow. Pour protéger la monarchie.
Ouais, ben, c'est... Ils disent la monarchie, mais c'est pas vraiment la monarchie, ils s'en foutent un peu. De ça, c'est des pions pour l'oligarchie financière.
C'est cette autorité.
Mais c'est... Ouais,
c'est... de l'argent qu'ils créent avec la photo de la reine là-dessus qui leur donne ton pouvoir.
Ben, c'est que si t'as une nation souveraine, elle décide de faire ce qu'elle veut. Elle n'a plus besoin de passer par ta banque. Elle n'a plus besoin de te payer d'intérêt. Elle est libre. Ça, c'est dangereux. Voilà. Mais je vais la développer plus sur l'idée de qu'est-ce que Lincoln a fait. Donc, vous allez devoir revenir pour le cadre school. Mais c'est une fin peut-être choc. J'espère. Je voulais pas garder ça trop long non plus, mais avoir des échanges sur qu'est-ce que vous en pensez, ou peut-être le briefing de Mathieu, encore des questions. Ou, en tout cas, mais pour ma partie, voilà.
Moi, j'ai une question pour Mathieu. Considérant ce qu'on vient juste d'entendre, quel est le pourcentage de la population américaine qui est consciente de ça?
13,2.
Ouais, je veux dire, c'est pas que c'est pas que ça. Est-ce que la majorité de la population est consciente de cette dynamique-là et donc sont